la Bibliothèque nationale de France.
Dans le cadre de la quatrième édition du cycle des débats au cœur de la science, des experts issus de différentes disciplines scientifiques vous invitent à plonger dans la profondeur des abysses.
Je vous souhaite bonsoir et bienvenue à toutes et tous, qui êtes nombreux ici, c'est tant mieux. Et vous pourrez d'ailleurs tout à l'heure poser vos questions à nos intervenants. Je salue aussi tous les internautes qui nous suivent ou qui vont nous suivre, suivre ce cycle de débat au cœur de la science sur la chaîne YouTube de la BNF. Comme Valérie l'a dit, je suis journaliste scientifique à RFI et j'anime l'émission Autour de la question, le magazine de toutes les sciences et de la recherche sur RFI. Et ce soir, donc, autour de l'exploration des océans, pour percer les mystères des grands fonds marins et des abysses, et comprendre aussi à quel point ce monde encore méconnu, si précieux, est menacé. Nous avons la chance d'être en compagnie de trois intervenants de fond, sans mauvais jeu de mots, trois chercheurs et chercheuses engagés, qui chacun à leur manière vont ouvrir notre perspective. Valérie a parlé de frissons, mais moi j'ai aussi et surtout envie de parler d'émerveillement. Alors on va commencer avec vous, chère Françoise Gail, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste marine, pionnière de l'exploration des écosystèmes abyssaux et des environnements marins profonds, directrice de recherche émérite au CNRS. Vous avez notamment été à l'origine des missions TARA, dont on parlera sûrement aujourd'hui. Et vous êtes aujourd'hui très engagée, Françoise, dans les instances internationales pour porter la voix de l'océan. Initiatrice de la plateforme Océan Climat, vous préparez la prochaine conférence internationale des Nations Unies sur l'océan qui aura lieu en juin 2025 à Nice. Arnaud Bertrand, bonsoir. Vous êtes écologue marin à l'IRD, spécialiste de la biologie des organismes marins qui peuplent l'océan à toutes les profondeurs et particulièrement en moyenne profondeur, c'est-à-dire finalement la majorité d'entre eux. Vous tentez, Arnaud, d'évaluer mais aussi de découvrir et de préserver la biodiversité marine. Vous êtes chercheur à l'IRD, je l'ai dit. Vous vous intéressez, qui est l'Institut de recherche pour le développement, vous vous intéressez aux systèmes tropicaux, côtiers et profonds. Après l'océan Pacifique, du côté du Pérou et du Chili, c'est au Brésil désormais que vous menez vos explorations en mer avec les chercheurs et même les pêcheurs brésiliens dans l'océan Atlantique tropical où il y a encore beaucoup à voir et tout à découvrir. Fabien Locher, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien des sciences et des techniques, spécialiste de l'histoire environnementale des mondes contemporains à l'EHESS, l'école pratique des hautes études en sciences sociales. Vous allez nous apporter justement le regard de l'historien sur le temps long. Pourquoi et comment avons-nous exploré les océans et jusqu'où ? Question ô combien d'actualité. Alors, qui s'ouvre, ça c'est la tradition dans notre cycle de débats au cœur de la science, qui s'ouvre avec un document issu des trésors de la BNF, disponible sur la bibliothèque Gallica. Nous avons choisi cet ouvrage du biologiste et philosophe Ernst Haeckel, qui s'intitule « Forme artistique de la nature ». Et surtout cette planche qu'il a dessinée, il a été marqué, très marqué, Haeckel, par les récits de voyage d'Alexandre von Humboldt. Il a participé à l'expédition de biologie sous-marine HMS Challenge et il va sillonner les mers de 1872 à 1876 pour collecter de nombreux échantillons. C'est donc un explorateur qu'il va mettre en valeur dans cet ouvrage. Les formes artistiques de la nature, publié en cahier de 1899 à 1904. Des planches précises qui représentent la diversité du monde marin et qui participe à la compréhension de ce milieu, et qui célèbre aussi la beauté de la nature. C'est peut-être par là qu'on arrivera à la préserver, qui sait. Et qu'elle étudie aussi les radiolaires, les éponges calcaires, les méduses. Ces dessins connaissent un grand succès au tout début du XXe siècle et inspireront des artistes de l'art nouveau. Est-ce qu'elle vous inspire aussi, je me tourne vers vous, Françoise Gail, Arnaud Bertrand, face à ces formes étranges, est-ce qu'elle vous inspire toujours? Et est-ce que le fait de les connaître un peu mieux continue tout de même, n'enlève pas un peu de l'émerveillement? Ou est-ce qu'on est toujours aussi émerveillé devant ces formes sous-marines? Françoise.
Pour moi, je suis toujours aussi émerveillée. Parce que d'abord, je trouve que c'est beaucoup de temps d'observation et de reproduction de la nature et des traits caractéristiques des organismes marins. Et en fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'océan quand j'ai à Roscoff j'ai découvert la beauté, je dirais, de tous les organismes qu'on trouvait dans une goutte d'eau de mer sous un microscope. Donc pour moi, c'est vraiment le début d'une histoire, et je trouve que avoir eu des personnalités comme Haeckel, qui sont dans le monde des naturalistes une référence, voilà, c'est le début de l'exploration.
Ces débuts d'exploration. Arnaud Bertrand, même et moi, devant ces formes sous-marines étudiées, dessinées par Haeckel.
Oui, c'est extraordinaire d'avoir ça il y a un siècle et de se rendre compte qu'on a un peu oublié et qu'on redécouvre. Et quand on est en mer et qu'on voit apparaître ces formes, on les fait remonter, on a l'impression de découvrir presque une forêt amazonienne avec tout un monde d'insectes, qui ne sont pas des insectes, mais une diversité inimaginable, des formes presque aberrantes. On se demande presque comment ça peut exister. Et c'est une vie inimaginable, en fait, pour nous terrestres.
Inimaginable, ça abrite des millions d'espèces et une biodiversité incroyable qui est quand même encore toujours méconnue, même si on l'explore depuis plus d'un siècle. C'est quand même toujours méconnu et c'est déjà menacé. Enfin, c'est tout va en même temps et trop vite.
Oui, là, il y a beaucoup de choses dans votre question. Effectivement, plus on regarde des individus, enfin des organismes petits, moins on les connaît en quantité, en pourcentage d'espèces. Et effectivement, dès qu'on explore un peu en profondeur, on découvre des nouvelles espèces. Et bah, voilà, elles sont déjà menacées, ces nouvelles espèces. On va découvrir une nouvelle espèce de poisson à 1500 mètres de fond et l'estomac va être rempli de microplastiques.
C'est ça, en plus, ça, on va y venir. Fabien Locher, je me tourne vers l'historien que vous êtes. Donc, paradoxalement, les océans qui couvrent la majeure partie de la Terre sont toujours méconnus. Depuis quand, comment et pourquoi a-t-on commencé le thème de ce cycle, c'est explorer, à explorer les océans?
Bon, alors, c'est une vaste question. Je ne pense pas qu'on puisse trouver d'origine, l'exploration des océans, parce que, voilà, on peut penser au premier plongeur qui est allé... Il y a des milliers d'années, rechercher de la nourriture au fond de la mer, aussi une forme d'exploration. Pour parler de choses plus proches, il y a essentiellement, disons, à l'époque, pendant l'époque que les historiens appellent l'époque moderne, c'est-à-dire 16e, 17e, 18e siècle, il y a essentiellement deux grandes formes de connaissances scientifiques de l'océan. C'est premièrement l'hydrographie. C'est-à-dire le fait pour les marines d'utiliser des objets assez simples, d'ailleurs des outils assez simples pour mesurer le fond de la mer. Et ça sert bien aux marines de guerre, aux marines de commerce. Et c'est en fait cartographier les fonds marins et surtout les fonds marins à proximité des côtes pour pouvoir bien naviguer en toute sécurité. C'est d'ailleurs un savoir stratégique qui parfois fait l'objet de secrets dans les marines militaires. C'est pour ça que le service hydrographique de la marine, c'est une des premières institutions savantes créées par la monarchie française. On l'appelait à l'époque le dépôt des cartes et plans. Alors, il y a aussi une autre forme de savoir qui se développe beaucoup à l'époque moderne, c'est ce qu'on appelle le savoir naturaliste, avec l'idée de faire un inventaire de toutes les espèces animales et végétales qu'on peut trouver, toutes les espèces vivantes qu'on peut trouver sous la mer. Vous connaissez peut-être Linné, ce grand savant qui a décrit, qui décrivait le monde en une multiplicité d'espèces dont il tentait de faire la classification. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en mer. Là, on en a un exemple avec les planches qu'on voit ici. Recueillir les espèces, les identifier, les nommer, les décrire, les mettre dans des collections comme celle du Muséum d'Histoire Naturelle, ici à Paris, mais aussi ailleurs, dans les ports, etc. Ça, c'est un grand travail qui a eu lieu de décennie en décennie, de siècle en siècle. Si vous allez dans les collections du Muséum d'Histoire Naturelle, vous avez des coquillages avec des petites étiquettes, 1727, 1832, 1945, etc., etc. Donc c'est l'accumulation aussi. Le savoir naturaliste, c'est un savoir d'accumulation. Ça prend une tournure particulière après l'expédition du Challenger dont vous avez parlé dans les années 1870, parce que là, on va pouvoir utiliser, après 1860-70, des outils plus puissants, des dragues, des chaluts, qui vont aller vraiment en profondeur chercher les spécimens. Et ça barre en brèche une idée qui était assez importante au début du 19e siècle, l'idée selon laquelle il n'y aurait pas de vie au-delà de quelques dizaines ou quelques centaines plutôt de mètres. Donc ça, c'est quelque chose qui a été battu en brèche, notamment parce qu'on a commencé à mettre des câbles télégraphiques au fond des océans. Il y a le câble télégraphique entre les États-Unis et l'Europe qui est mis en place dans les années 1860. Et quand on remonte des bouts de câbles pour les réparer, des grandes profondeurs, on s'aperçoit qu'il y a des organismes vivants qui sont incrustés dessus. et que donc manifestement il y a de la vie en grande profondeur. Donc ça élargit, j'allais dire, la quête des naturalistes pour aller chercher des spécimens un peu partout. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est que très tardivement, en fait à la fin du 19e siècle, qu'on commence véritablement à s'intéresser au cycle de vie, au mode d'existence concret en fait des organismes dans les profondeurs. Pas seulement les prendre, les inventorier, les décrire, mais vraiment essayer de les comprendre dans leur mode de vie. Il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, moi, c'est que si on regarde les poissons comestibles qu'on exploite depuis des siècles, voire des millénaires, donc on pense au hareng, on pense à la morue, on pense aux poissons plats, au sol, etc. Jusqu'aux années 1860-70, on ne sait pas identifier leurs œufs. On pense que les œufs de ces poissons se trouvent dans les herbes près du littoral. Ce n'est que dans les années 1860 que les Norvégiens vont par exemple déterminer que l'œuf de morue est flottant. Il est pélagique, il est pas du tout, il se trouve pas du tout dans les herbiers littoraux. C'est dire à quel point on ignorait des pans entiers en fait de la vie en mer. Est-ce qu'on imaginerait ne pas connaître le petit de la vache, le petit du mouton, alors que c'était une ressource alimentaire aussi importante, mais dont on ne savait littéralement rien.
Parce qu'il fallait les moyens aussi pour pouvoir explorer. Je vous coupe un peu, on va revenir sur cette question historique, mais finalement, j'ai envie de m'arrêter là-dessus, on découvre de la vie jusque dans les plus grandes profondeurs de l'océan, Françoise Guette, même dans ces sources hydrothermales, dans ce qui pourrait être un peu l'enfer, pas sur Terre, mais sous la mer, on découvre de la vie partout dans l'océan.
Oui, et c'est ça qui est formidable, hein. D'abord, on vient, nous, de l'océan aussi. La vie
rappelons-le.
Est née dans l'océan. Je voulais juste revenir quand même sur quelque chose qui m'importe. C'est la question des formes.
Mm-hmm.
Parce que, en
des
fait,
formes
ça,
incroyables.
Ça fait le lien un peu avec ce que vous venez de dire. Je pense que quand on a des formes qui peuvent être magnifiques ou simples ou complexes, ou digitales ou légères, ce que se pose comme question le naturaliste, c'est comment est-ce que cette forme-là représente une référence pour déterminer une espèce, et donc il va pouvoir, à travers cette forme, en inférer une classification du vivant. Mais le biologiste, lui, il va se poser une question un peu différente. Il va se dire, mais cette forme, mais ça veut dire quoi? Quelle est la signification de la forme? Est-ce que c'est quelque chose qui est dû à la génétique, ou est-ce que c'est quelque chose qui est dû à la relation à l'environnement? Et donc cette question de la problématique de la forme a aussi été, par rapport à ce que vous avez dit sur les poissons, etc., à l'origine de la prise en compte de ce qu'on appelait le cycle de vie de l'ensemble des espèces. Et c'est finalement qu'on a commencé aussi à tenir compte de ce cycle de vie, qu'on s'est aperçu qu'il pouvait très bien y avoir des organismes à toutes les profondeurs, y compris jusque dans les zones abyssales et à dalle pour 11 000 et quelques de mètres de profondeur, mais qu'un organisme, une espèce, pouvait très bien avoir la phase adulte au fond des mers, tout au fond, et puis des œufs, c'est-à-dire de ces formes dispersives, qui remontent jusqu'à la surface. Et ça, ça a remis en cause aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire que finalement, le vivant se déploie, non pas seulement dans une zone particulière, son biotope, qui est celui de l'adulte, mais peut très bien avoir une zone géographique en fonction de son stade larvaire, qui peut être immense. Un petit peu comme... par exemple, ce que font les baleines maintenant à traverser tous les océans du nord vers le sud. Donc ça donne aussi un rapport de l'importance de la circulation et de cet élément qu'est l'océan et la façon dont le vivant a pu se déployer, se diversifier et coloniser tous les espaces océaniques.
Arnaud Bertrand, je vais vous faire réagir là-dessus, évidemment, parce que vous venez de démontrer, on reviendra sur l'aspect historique, mais là, vraiment, sur cette question du vivant qui se déploie dans tout l'océan, vous avez démontré, au Brésil notamment, hein, si je ne m'abuse, dans cette partie d'océan, une répartition verticale, C'est-à-dire que là, on n'est pas dans les plus grandes profondeurs, on n'est pas dans la surface, on est dans le gros de l'océan, que ces espèces montent et redescendent. Et du coup, c'est grâce à ça qu'elles sont capteurs de carbone, si je vous ai bien compris.
Oui, alors bon, ce que vient de dire Françoise Gaël est très important, c'est-à-dire qu'effectivement on est dans un monde en trois dimensions, visqueux, et il y a de la dynamique des courants qui est quasiment, enfin une grande majorité des espèces vont avoir une phase pélagique, c'est-à-dire dans la masse d'eau, et peuvent être transportées sur des milliers de kilomètres. Donc on a cette vision spatiale, mais aussi verticalement, on sait depuis maintenant pas mal de temps que beaucoup d'espèces effectuent des migrations nyctémérales entre le jour et la nuit. C'est-à-dire que la nuit, elles vont être proches de la surface où elles vont profiter de la production primaire, de la photosynthèse.
La lumière qui.
De la lumière, voilà. Et la journée, elles vont se réfugier en profondeur, elles vont éviter les prédateurs. Et en fait, ça constitue la plus grande migration mondiale, c'est-à-dire qu'on estime de l'ordre de 10 gigatonnes d'organismes qui font cette migration tous les jours. Et donc, ça a une importance pour nous, pour vous, parce que c'est un des modes de régulation du climat. Parce que vous avez des milliards de tonnes d'organismes qui vont la nuit s'alimenter en surface, capter, manger, se nourrir de carbone qui a été fixé par la photosynthèse, donc du carbone atmosphérique. Ces espèces vont capter ce carbone et descendre dans la journée à 500, 1000 mètres de fond. Et là, à 500, 1000 mètres de fond, elles vont respirer, déféquer, se faire dévorer, ou se faire dévorer parfois par des espèces qui vont descendre après plus profondément. Et donc ce carbone reste bloqué à des grandes profondeurs où il va être stocké pour des centaines ou des milliers d'années. Donc là, on a des acteurs qui sont nos alliés. Et malgré tout, on les connaît encore peu. Et on pourra peut-être y revenir plus tard. Il y a des risques sévères sur leur futur.
On va y revenir. On se rend bien compte que les plus grands explorateurs sont les animaux eux-mêmes. Enfin, les animaux humains ont exploré ensuite. On va peut-être revenir justement à cet aspect historique avec vous, Fabien. Donc, comment est-ce qu'on a réussi à comprendre qu'il y avait de la vie partout dans l'océan? Et pourquoi est-ce qu'on est descendu? Pourquoi on a continué d'explorer l'océan, les fonds marins et jusqu'aux abysses?
Alors, il y a plusieurs ensembles de raisons. Il y a une raison qui est évidemment la ressource. Et là, la question de la pêche, elle est très importante. Il y a une institution, la première grande institution internationale d'exploration scientifique des océans, hein, c'est le Conseil international pour l'exploration de la mer qui émerge à la fin du 19e siècle et qui est essentiellement promu par des nations scandinaves qui vivent de la pêche, essentiellement de la pêche, des grandes pêches à la morue et aussi au hareng, et puis aussi par l'Angleterre, qui est à ce moment-là le premier pays de pêche. Hein, la flotte de pêche à vapeur anglaise, c'est la plus grande du monde à ce moment-là. Ce sera bientôt les Japonais, mais pour l'instant, c'est les Britanniques. Et il y a un intérêt à connaître les flux. Alors, on s'interroge hein, depuis longtemps sur les fluctuations de capture. Hein, donc, on vient au même endroit d'une année sur l'autre. On capture pas du tout la même quantité de morue ou de hareng. Et c'est un enjeu fondamental. Parfois, on voit disparaître tout simplement les ressources. Donc, on s'interroge sur ces questions-là et on fait des explorations qui sont financées par les États, tout simplement parce que c'est des secteurs économiques d'importance. Et donc, bah, les États mettent de l'argent sur la table, alors que les États financent très peu l'exploration des océans au 19e siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc il y a un effort hein, pour comprendre les phénomènes, les cycles de vie, identifier les œufs, mais aussi travailler sur les températures, parce que l'idée c'est d'essayer de prévoir hein, les températures, la température de l'eau pour essayer de prévoir les captures en poisson. Donc là on fait de l'océanographie biologique, océanographie des pêches, mais rapidement on est amené à faire de l'océanographie physique du coup, pour comprendre et lier les deux ordres de phénomènes. Ça c'est la première chose. Donc on peut, là on fait des études qui sont donc sur le plancton aussi, les températures, les profondeurs, les courants, le rapport au vent, voilà. Et c'est très important. La deuxième chose, c'est la question militaire qui émerge vraiment très très fort pendant la Première Guerre mondiale, où vraiment la guerre sous-marine devient un enjeu fondamental pour les États. Donc la question militaire, elle est fondamentale si on veut comprendre bien sûr l'exploration des abysses au XXe siècle. Sans ça, on ne peut pas comprendre pourquoi il y a autant d'argent, autant de moyens, autant de bateaux, autant de gens formés. Voilà. Donc ça dépend des pays. Il y a des pays où c'est évident, c'est le cas des États-Unis par exemple. La guerre sous-marine, elle nécessite plusieurs choses. Elle nécessite de bien connaître les fonds marins, bien sûr, parce que il faut naviguer en sécurité, il faut pouvoir se cacher. Et ça, c'est très important. Et puis, il faut aussi bien voir une chose, c'est qu'à partir du moment où, pendant la Première Guerre mondiale, les savants français, des grands savants comme Langevin, mettent au point le sonar, pour faire la guerre, hein, Langevin, il faut aussi connaître la salinité de l'eau de façon très précise, parce que on se cache finalement des sonars adverses en jouant avec les courants et les salinités. Donc connaître l'océanographie physique, c'est pouvoir faire la guerre sous-marine. Ça va être encore plus important parce que les Américains vont concevoir les missiles Polaris qui sont des missiles hein, qu'on tire depuis un sous-marin, des missiles nucléaires qu'on tire depuis un sous-marin et qui peuvent, depuis le fond des mers, atteindre Leningrad, Moscou ou Kiev. Et donc là, évidemment, il y a des sommes énormes qui sont investies dans l'océanographie, aux États-Unis, en URSS, en France, en Angleterre, etc. Donc les historiens des sciences et des techniques ont bien analysé ça, l'importance de l'océanographie militaire, après 1918, mais surtout après 1945. Et puis la question, finalement, on pourrait y revenir peut-être, de la question pétrolière. Hein. En France, un organisme comme le CNEXO, qui deviendra l'Ifremer, est quand même créé avant tout pour explorer le plateau continental, pour faire de l'exploitation pétrolière. Ça, c'est quand même très, très, très net. Et il l'est créé dans les années 60, hein, en 67, si je ne m'abuse, pour vraiment dans une optique dans une situation géopolitique compliquée où on a envie de se désengager du Moyen-Orient, on espère trouver de la sécurité dans les ressources qu'on trouve dans le plateau continental, y compris français d'ailleurs, parce qu'on imagine à ce moment-là qu'on va faire des plateformes en Méditerranée.
Comment s'est articulé donc ensuite, parce que moi je n'avais pas conscience de ce lien militaire pour l'exploration de l'océan, comment ça s'est articulé ensuite avec des grandes explorations de l'océan par des scientifiques, par des chercheurs, par des océanographes, avec des physiciens, mais pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, Françoise Gaël, comment ça s'est articulé, parce qu'ensuite il y a des expéditions, vous avez été pionnière et à l'origine de Tara, dont on continue de travailler sur les résultats aujourd'hui. Comment est-ce que ça s'est articulé avec la science ?
En fait, je pense que c'est très important ce qui vient d'être dit sur le CNEXO, puisqu'il faut imaginer que le CNEXO a permis à la France d'être le deuxième opérateur des grands fonds après les États-Unis. Et cette position a engendré le développement de programmes de recherche financés au niveau de l'État. Le muséum a eu une grande part dans l'exploration et la découverte de nouvelles espèces. Et moi, j'étais au muséum justement au moment où ça s'est passé. Il y a eu vraiment un très grand programme national sur les grands fonds. Et cet investissement a duré quand même pendant 10 ans de façon ininterrompue. Donc c'est quelque chose, un investissement important. Et les résultats qui ont été obtenus ont engendré une dynamique, en fait, d'interdisciplinarité très importante entre les géologues, qui, eux, étaient justement ceux qui savaient où trouver un certain nombre de ressources, en particulier pétrolières, les chimistes, les physiciens qui pouvaient nous apporter aussi la modélisation hydrodynamique, et puis différents types de biologistes, depuis les naturalistes dont j'ai parlé, mais aussi le développement d'autres types de biologie, surtout avec l'émergence de la biologie moléculaire. Et l'émergence de la biologie moléculaire a été un moment charnière qui a permis aussi à ce type de recherche de rebondir par la suite avec la découverte, je dirais, de la première enzyme qui a donné naissance ensuite à ce domaine qui est la génétique actuelle et la génomique, puisque dans les grands fonds marins, au niveau des sources hydrothermales, on a trouvé dans certaines bactéries des enzymes capables justement de détricoter l'ADN dans des conditions de stabilité thermique inimaginables, puisque dans ces sources hydrothermales, vous avez des écosystèmes.
Dans les extrêmement grandes profondeurs, enfin, c'est
en grand, oui. C'est donc
abyssal, hein.
Oui, oui, c'est donc, en général, c'est 2000, 2500, 3000 mètres de, le long des dorsales océaniques. Chaque océan a une épine, enfin, une colonne vertébrale qu'on appelle les dorsales, et c'est le lieu où se forme le plancher océanique. À ce moment-là, le magma remonte, se solidifie au moment où il arrive au niveau de la mer, qui est beaucoup plus fraîche, et ça se forme une plaque qui va se dérouler après vers le continent, donc ça fait un tapis roulant. Et c'est le long de ces dorsales qu'il y a l'émergence de fumeurs noirs ou blancs, etc., suivant leur température, autour desquels on a découvert vraiment des nouvelles espèces, des nouveaux phylums, ce qui est quand même extrêmement rare. Ça a été la plus grande découverte du XXe siècle en océanographie, puisqu'on a des espèces qui sont gigantesques. Puisqu'il n'y a pas de lumière, il devrait y avoir très peu de nourriture. Et on avait auparavant une théorie qui était dite la théorie de stabilité de Sanders, puisque au cours des dizaines d'années où on a fait ces recherches abyssales, on avait une bonne théorie qui nous prédisait les choses en disant, voilà, au fond des mers, il n'y a pas de nourriture et par conséquent, les animaux doivent être tout petits. Et ils étaient en effet tout petits. Et ils étaient tout blancs, dépigmentés, évidemment, puisqu'il n'y avait pas non plus une diversité de longueur d'onde. Et puis, il y avait une diversité spécifique, mais absolument magnifique, extraordinaire. Pour les naturalistes, c'était vraiment l'Eldorado. Pourquoi ? Parce que comme il n'y avait pas de variation de conditions de l'environnement dans ces zones-là, toutes les poussées évolutives, toutes les façon d'évoluer des espèces pouvait se faire jour, et donc on avait un nombre d'espèces, on descendait, on remontait quelque chose, et on était sûr qu'on allait trouver des nouvelles espèces. Donc c'était extraordinaire pour les naturalistes. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand on a trouvé les sources hydrothermales, on a trouvé tout le contraire. Il y avait un très petit nombre d'espèces, mais ces espèces n'étaient pas toutes petites, elles étaient gigantesques. On pouvait trouver des vers qui sont des vestimentifères, donc des nouveaux phylums qui étaient près de 2 mètres de haut, et puis des moules qui faisaient 40 cm de longueur.
Des animaux gigantesques, là.
Oui, c'est vraiment. Des palourdes, pareil. Mais vous voyez, en très petit nombre d'espèces. Donc, en fait, il y avait non pas une infinité, mais très, très peu. Et donc, ça a remis en cause aussi cette théorie. Et on s'est demandé pourquoi. Et en fait, la biologie moléculaire qui se développait à ce moment-là a permis de montrer que les bactéries qui étaient dans l'eau de mer, étaient préemptés par les organismes, les métazoaires, qui les cultivaient de façon différente d'ailleurs, à leur profit. Et ces bactéries leur servaient de petits moteurs, puisqu'elles étaient capables de transformer de l'énergie chimique en énergie organique. Et donc à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que ça a été un changement de paradigme. On a compris pourquoi l'origine de la vie pouvait être, non pas seulement au niveau de la surface, mais au niveau des profondeurs. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'était l'énergie de la Terre, et c'était la chimiosynthèse qui était une alternative à la photosynthèse. Et ça, cette façon d'identifier de nouveaux processus biologiques, on n'a pas fini de découvrir plein de choses pour l'instant. Mais c'est vraiment quelque chose de vraiment remarquable.
On n'a pas fini, Arnaud Bertrand, vous en découvrez aussi, alors là, du côté du Brésil, et même sans aller dans les abysses ou dans les plus grandes profondeurs, vous en découvrez constamment.
Oui, alors évidemment, si on va au fond des océans, il y a beaucoup encore à découvrir, beaucoup plus, mais même dans la masse d'eau, à chaque fois qu'on donne un coup de chalut à 1000, 1500, on va trouver des nouvelles espèces, où que ce soit probablement dans le globe. Et pour revenir aussi à l'aspect historique qui a été indiqué par Fabien Locher, un de mes outils d'observation clé, c'est l'acoustique. Et donc ça, c'est issu du développement des sonars, donc lié au sous-marin.
C'est-à-dire que, loin d'être le monde du silence, l'océan, on peut écouter des choses, et c'est grâce à l'acoustique que vous réussissez à travailler, à comprendre et à repérer les espèces.
Alors oui, bon, les espèces ne nous ont pas attendus. Hein, Beaucoup de mammifères marins utilisent l'écholocation pour se nourrir. Et en fait, là, je fais référence à l'acoustique active. Donc, on envoie du son jusqu'à 1500 selon les fréquences. Et en fait, tout organisme sous l'eau va avoir une réflexion du son et on va récupérer de l'énergie. Et ce qui est extraordinaire avec ces méthodes d'acoustique, c'est qu'en fait, par exemple, si on a une campagne en mer pendant un mois, toutes les secondes, on va envoyer une émission sonore et donc toutes les secondes, on va avoir une information jusqu'à plus de 1000 mètres de fond. Et cette information nous donne des éléments sur la présence de zooplancton, donc de petites crevettes, mais aussi de poissons, mais on peut voir aussi des mammifères. Et c'est très différent des moyens d'observation classiques, on va dire un sous-marin, un chalut, un filet à plancton, qui va être très réduit dans le temps et l'espace. Là, on a une couverture, on peut voir les évolutions jour-nuit, on voit comment tous les organismes vont monter en surface la nuit et vont redescendre en couches, qu'on appelle de couches diffusantes durant la journée, et avoir une distribution très hétérogène dans la masse d'eau. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit en direct des interactions trophiques. On peut voir comment une baleine va descendre à 200 mètres. C'est pas par hasard, parce que là, il va y avoir des céphalopodes. Et donc, c'est vraiment une observation intéressante et qui est vraiment fruit de ces recherches militaires.
Quels sont justement, puisqu'on est dans les moyens techniques, donc il y a l'acoustique avec le sonar, quels sont les moyens aujourd'hui développés? Et on a parlé de descendre et d'aller. Y a les naturalistes qui veulent observer, il y a les biologistes, mais il y a évidemment aussi la question des ressources. Mais d'abord, quels sont les moyens techniques qu'on a aujourd'hui? Jusqu'où peut-on explorer l'océan et de quelle manière? Je ne sais pas qui veut répondre. Arnaud, peut-être, ou François?
Je peux commencer. Quelque chose d'émergent actuellement, c'est l'ADN environnemental. C'est-à-dire qu'on va collecter de l'eau. Et à n'importe quelle profondeur, et on va séquencer l'ADN qu'on va trouver dans l'eau, ce qui nous permet de déterminer la présence d'un requin profond, d'une baleine, d'une bactérie, parce que quel que soit le type
d'organisme. On peut avoir une carte postale, carte postale génétique.
Actuellement, il y a un énorme effort mondial pour avoir une banque d'ADN pour avoir une référence pour toutes les espèces. Donc ça, c'est quelque chose d'émergent. Après, il y a toutes les techniques, on va dire, plus classiques, observation, chalut, filet, piège, sous-marin, mais là, je pense que
robot sous-marin
connaît
aussi
bien mieux que moi.
Voilà, Françoise Guel, surtout qu'en plus, avec la mission Tara, était quand même une des premières à essayer de collecter sur toutes les mers du globe des échantillons de ces formes de vie.
Oui, je pense que ce qu'il y a d'intéressant, puisque moi je suis une océanographe classique, disons, avec Tara, c'est que ça a été l'émergence d'un nouveau concept. C'était formidable pour les scientifiques, parce que quand on faisait une campagne océanographique, en fait, il fallait déjà 2 ans pour faire le projet, puisque en général, on a plusieurs laboratoires qui se mettent ensemble. Et ensuite, il faut que ce projet soit évalué. Et comme il y avait un goulot d'étranglement avec beaucoup de demandes et peu de bateaux, on pouvait encore attendre 2 ans ou 3 ans avant d'avoir la campagne. C'est pourquoi des gens comme moi sont partis aux États-Unis pour essayer d'avoir des navires beaucoup plus facilement, puisque là-bas, le système était totalement différent. Et donc, Tara, dans le paysage français en tout cas, est apparue comme quelque chose de beaucoup plus agile, qui ne permettait pas d'aller partout, mais qui en tout cas avait cette capacité, au niveau de la couche la plus superficielle de l'océan, de pouvoir être explorée de façon particulière. C'est-à-dire, a été décidé que l'écosystème planctonique uniquement serait étudié avec des moyens qui étaient des nouvelles technologies concernant la génomique. Et avec Eric Carcinti, qui a eu l'idée de faire ce voyage, c'était en fait de partir pour refaire le voyage du Beagle de Darwin, faire le tour de la Terre et voir un petit peu quel était l'état zéro de l'océan du point de vue des espèces qu'on pouvait y trouver, pour être en mesure ensuite de suivre l'évolution de la biodiversité de cette partie de l'océan. Et là, Tara a permis de ramener des échantillons de façon systématique avec des nouvelles technologies, puisque la plupart des scientifiques qui ont participé à l'équipe première de Tara étaient non pas des océanographes comme moi, mais des biologistes cellulaires ou moléculaires, et donc n'étaient pas du tout des naturalistes. Et le fait qu'ils ne soient pas naturalistes a été une manière d'aborder les problèmes d'une façon totalement différente, en essayant aussi d'emblée de mettre avec le privé les laboratoires qui développaient des nouvelles techniques de séquençage. Et là, il y a eu aussi un saut, puisque entre le moment où Tara a commencé en 2008 et avec Tara Océan, et le moment où les premières publications sont parues, il y a eu une division par presque 100 du coût du séquençage des bases, enfin du matériel génétique des espèces. Et donc ça a été une explosion permettant avec le plus grand laboratoire européen qui est le MBL, avec l'IBI, de commencer à faire des bases de données de référence de tout ce qui était dans l'eau, dans cette zone photique. Je pense que c'est quelque chose d'important, parce que c'est rare que la France soit vraiment en mesure d'innover. Je pense que ça restera dans les annales, et que si on est aujourd'hui en avance du point de vue océan, du point de vue de la biologie, c'est grâce aussi à ces avancées et ces nouveaux modèles qui ont entraîné la communauté scientifique vers de nouvelles approches modernes, et qui étaient même par rapport aux États-Unis. Pour l'instant, nous sommes sans doute les premiers à avoir la richesse de séquences génétiques que nous avons. C'est extrêmement important aussi. Excusez-moi,
Non, allez-y, parce qu'en plus, c'est en open source.
Je pense que c'est assez intéressant, parce que ce qu'on voit, il y a eu au niveau de l'océan, vous avez dû en entendre parler, une grande négociation onusienne sur ce qu'on a appelé BBNJ, c'était sur la haute mer. La haute mer, c'est la zone de l'océan qui n'est pas préemptée par les zones économiques exclusives que les États ont sur les bords, les interfaces terre-mer, ou qui n'est pas non plus le fond de l'océan qui est géré par les Nations Unies à travers une agence particulière. Mais là, c'est l'entre-deux, et en fait, ça représente 60% du volume de l'océan. Donc c'est quand même la haute mer, ça représente quelque chose. Et là, par rapport à ça, il a été discuté le fait que les ressources génétiques, grâce aux résultats qu'on a obtenus, font maintenant partie d'un nouveau type de ressources, qui n'est pas la pêche, mais qui est quelque chose d'autre, qui peut donner naissance à des conséquences industrielles diverses et variées, où l'Europe est vraiment parmi les premiers investisseurs.
On va y revenir, hein, parce que ces questions de gouvernance des océans, de protection de la biodiversité sont essentielles aujourd'hui. On se rend compte, à travers ce que vous dites, à quel point les océans regorgent de biodiversité qu'elle est encore totalement méconnue, et qu'on ne cesse d'en découvrir à tous les niveaux, à toutes les échelles et de toutes les tailles, à l'explorer de toutes les manières possibles. Et on a commencé par ça. Fabien Locher, c'est vrai qu'il y a aussi la question des ressources. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une exploration de l'océan où on se rend compte de l'étendue de la biodiversité et aussi de l'étendue de notre ignorance par rapport à tout ça. Sauf que bien sûr, vient tout de suite la question des ressources. Comment est-ce qu'on fait pour préserver ce qu'on ne connaît pas encore et ce qui est essentiel pour le climat, pour la planète, enfin, qui est absolument fondamental. On verra comment vous vous débrouillez, Françoise, dans les instances internationales pour faire devenir la voix de l'océan. Mais Fabien, comment fait-on face à ces questions qui sont énormes ?
Alors, oui. Alors déjà, il y a quelque chose qui est intéressant, je trouve, dans l'histoire des sciences de l'océan, c'est que la question de l'exploitation est toujours... Et la question de l'exploitation, d'une part, et la question de l'exploration, d'autre part, sont
liées.
Intimement liées. Mm-hmm. Je pensais... en vous écoutant, au premier outil peut-être d'exploration des profondeurs 17e, 18e siècle, c'est pas tant les bateaux finalement que les marchés aux poissons. Les naturalistes, les premiers naturalistes, Marsigli au XVIIIe siècle, et puis d'autres au XIXe, et même jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, vont sur les marchés aux poissons chercher des spécimens. Ils ont des relais. D'ailleurs, j'avais fait les archives d'un scientifique qui travaillait à Lorient. Lui, il se faisait amener tous les spécimens étranges ramassés par les pêcheurs. On lui amenait les dauphins qui avaient été pris dans les filets, qu'il disséquait, etc. Donc c'était un outil de science. Le marché aux poissons était en tant que tel un outil de science, parce que il y avait très peu de bateaux scientifiques disponibles. Et donc, c'est en fait les flottilles de pêche qui servaient de vecteurs d'exploration. Donc là, on voit très bien que l'exploitation et l'exploration allaient de pair. Ça a d'ailleurs été un problème dans ce qu'on appelle l'halieutique, la science des pêches. C'est que les experts ont été, pendant des décennies et des décennies jusqu'à récemment, un peu trop près, on va dire, des intérêts de la pêche et des intérêts économiques de la pêche, peut-être un peu trop près pour être de bons régulateurs, justement. Donc ça a changé avec déjà des générations, disons des années 60-70, mais il y avait quand même une ambiguïté sur le rôle, finalement, des biologistes des pêches qui devaient avant tout intensifier l'exploitation. Faut être clair et net là-dessus. Donc voilà, donc ça les a parfois placés, d'ailleurs, un peu en porte-à-faux, hein, parce que on leur demandait à la fois d'intensifier l'exploitation à outrance et de conserver les stocks. Donc il y avait quand même une vraie question, d'autant qu'il faut bien s'imaginer ce que c'est que la révolution technologique au XXe siècle, hein, passer du bateau à voile au chalutier, à diesel, avec une révolution qu'on a souvent tendance d'ailleurs à minimiser, c'est l'arrivée des matières synthétiques dans les filets. Le jour où il y a eu du nylon dans les filets, ça a complètement changé la pêche. Hein, je veux dire, voilà, ça a multiplié la puissance de la pêche d'une façon incroyable. Alors que il n'y a rien qui ressemble tant, finalement, deux filets qui semblent identiques, il y en a un qui peut être deux fois plus pêchant que l'autre, quoi. Donc voilà, donc il y a une problématique spécifique sur la question de la pêche, qui est liée aussi à la question, bien sûr, du statut de la haute mer.
Ben oui.
Alors, le statut de la haute mer, c'est qui va réguler la pêche en haute mer, qui constitue quand même une grande partie de la pêche. Donc là, ça a été un des grands enjeux des grandes négociations onusiennes. Il y en a eu trois grandes depuis 1945, plus celle évidemment plus récente sur la haute mer. Mais comment faire pour créer des organismes de gestion? Donc là, il y a eu des tentatives, il y a des organismes régionaux de pêche qui ont été créés, qui ont plutôt échoué à conserver les stocks. Et puis, il y a un autre problème qui vient se surajouter, c'est que la question de la haute mer, elle est toujours, et vous venez dire, c'est un peu mon obsession, mais je crois que c'est assez important aussi, c'est lié aussi aux questions stratégiques. Pendant longtemps, les grands États, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'URSS, ne voulaient pas, finalement, d'une extension des souverainetés qui aurait pu permettre la régulation. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient que leurs navires de guerre puissent aller partout, jusqu'à une grande proximité des côtes. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, ces États ont refusé d'étendre les souverainetés en mer. Donc c'est un peu technique ça, mais ils ont voulu que la mer reste ce qu'on appelle finalement reste en libre accès finalement. Et ça pose un problème en termes de gouvernance, parce que si la mer est en libre accès, comment faire pour réguler les activités des uns et des autres? Les États-Unis, les Nations Unies, pardon, ont essayé de gérer ce problème. Ils ont pas mal avancé sur la question des fonds marins et sur la question de la pêche. Il y a encore énormément de choses encore à...
Sur la question des fonds marins, notamment, là, on est...
Françoise Gayle serait plus compétente que moi pour en parler, mais c'est vrai qu'il y a eu toute cette réflexion dans les années 60 autour de la question des fonds marins comme patrimoine commun de l'humanité, avec cette idée qu'il fallait, à un moment où l'exploitation minière des fonds marins semblait imminente, il fallait que l'ONU s'en empare pour que les fonds marins ne servent pas seulement finalement aux pays riches. Il y avait cette idée d'une redistribution mondiale aussi. On allait faire un système onusien de gestion des fonds marins pour que les bénéfices tirés de l'exploitation minière puissent servir à ce qu'on appelait à l'époque un nouvel ordre économique. En bref, que de l'argent aille dans le tiers-monde. Que ça ne serve pas simplement à enrichir les firmes minières américaines, françaises ou japonaises. Et alors, il y a quelque chose... C'est quelque chose qui a été un rêve... interrompu finalement parce que un rêve d'un point de vue peut-être nord-sud, peut-être un cauchemar d'un point de vue écologique, ça c'est possible, mais en tout cas interrompu par le fait qu'il n'y a pas eu finalement d'exploitation minière concrète des fonds marins à cette époque. Justement, tout l'enjeu contemporain, c'est le retour de ces projets qui sont désormais beaucoup plus faisables, peut-être beaucoup plus rentables, ça c'est pas forcément à moi de le dire, qui semblent beaucoup plus imminents, disons.
Arnaud, je vous ai vu réagir.
Oui, il y a un aspect intéressant sur cet aspect d'exploitation et même le parallèle avec les mines. C'est-à-dire qu'on a surexploité les océans et on est allé de plus en plus profond. Et on a commencé à pêcher à 600, 800, 1000 mètres. Et là, il y a deux aspects. Alors, un premier aspect, c'est par exemple au large du golfe de Gascogne. On a commencé à pêcher et les pêcheurs ramenaient dans leur filet des morceaux de corail. Et en fait, on a presque découvert qu'il y avait un écosystème corallien de profondeur avant même que nous, les scientifiques, on l'étudie. Et on a détruit avant même de l'étudier. Et autre aspect, c'est que quand on pêche à 1000 mètres de fond ou 600 mètres de fond, on a des poissons qui grandissent très lentement. Et en fait, c'est des poissons qui peuvent vivre 80-100 ans et qui se reproduisent. Leur première reproduction va être à 40-50 ans. Et en fait, c'est à l'échelle humaine, on n'est pas dans des espèces renouvelables. On est presque dans de la mine, c'est-à-dire que l'échelle de renouvellement n'est pas à l'échelle humaine et c'est comme si c'était des ressources minières. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant le parallèle, c'est-à-dire que même au niveau des poissons, on finit par pêcher des ressources qui sont par définition non soutenables.
Non soutenables et non renouvelables.
Exactement. Et actuellement, il y a un autre... même ceux-là, on les a surexploités dans beaucoup d'endroits dans le monde, notamment, par exemple, en Nouvelle-Zélande, il y avait des grandes pêcheries de ce qu'on appelle l'orange roofie, qui est un poisson qu'on peut même trouver ici, mais qui a été surexploité immédiatement. Et actuellement, c'est ces poissons mésopélagiques, donc ces petits poissons qui font ces migrations, qui sont la cible d'intérêt mondial. Et alors, c'est intéressant. Par exemple, l'Union européenne, dans son programme H2020, donc c'est un programme de financement qui a eu lieu, qui est en train de se terminer, et il y avait deux volets. Il y avait un volet pour ces espèces de découverte, de voir leur rôle dans les écosystèmes, leur rôle dans le climat, donc un aspect vraiment écologique et climatique, comprendre leur rôle pour nous. Et en même temps, il y avait un autre pan de financement qui était l'exploitation. Donc c'est la course pour savoir si on va arriver à mieux les comprendre et voir leur rôle et quantifier, parce que par exemple dans tout le GIEC, les calculs de changement climatique, pour l'instant ces aspects-là sont pas pris en compte parce qu'on n'a pas encore assez de données. Donc on travaille pour avoir des données sur l'importance de ces poissons, de ces crustacés, de ces céphalopodes, ces organismes gélatineux
pour réguler le climat comme puits de carbone.
Et en même temps on essaye d'aller le plus vite possible parce qu'en même temps il y a des intérêts pour exploiter. Alors ce qui nous sauve pour l'instant, c'est que le coût énergétique de l'exploitation de ces ressources est énorme, parce qu'en fait elles sont assez dispersées, donc le coût pétrole fait que pour l'instant on n'a pas réussi vraiment à les lancer. Mais voilà, c'est des aspects qui vont vers cet aspect d'exploitation.
Franck Noisiel, comment vous faites face à ces injonctions terriblement contradictoires puisque vous êtes dans les instances onusiennes, que vous êtes en train de préparer la convention internationale sur les océans, hein, l'IPOS 2025 à Nice.
Je pense que c'est... il faut voir que, de toute façon, la convention de Montego Bay, donc, a été la première convention universellement reconnue par l'ensemble des pays est devenue un modèle. Puisque c'est la première fois qu'il y avait une majorité de pays qui étaient d'accord pour se dire on ne va pas toucher au fond des mers, et c'est les Nations Unies elles-mêmes qui vont faire la gestion, dans un premier temps, de l'exploration de ces zones. On arrive d'ailleurs aujourd'hui à la limite, c'est-à-dire qu'on va basculer peut-être vers l'exploitation, mais ça, c'est, on pourra en parler tout à l'heure. Donc il y a un grand enjeu qui est autour de cette notion d'exploitation. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais des ressources génétiques, c'est une nouvelle forme d'exploitation qui ne se voit pas. C'est pas du tout le minéral, c'est pas du tout la géologie, c'est pas du tout non plus le poisson. C'est vraiment quelque chose qui se voit pas, qui est dans l'eau, et c'est au niveau moléculaire. Et c'est pour ça que c'est peut-être encore plus un mirage ou peut-être encore plus quelque chose qui peut être intéressant. BASF, par exemple, est le premier à avoir identifié ce genre de ressources et représente
le laboratoire,
les brevets, oui. Les brevets de cette compagnie, c'est 50% des brevets déposés par l'ensemble du monde. Donc l'Allemagne, là, est vraiment très, très bien située. L'océan, donc, moi, je pense que c'est une entité dont il faut prendre la mesure, parce qu'il n'y a qu'un océan, et même s'il y a l'océan Atlantique, Pacifique, etc., tout est connecté et ça ne forme qu'un seul océan. Or, cet océan, c'est celui qui nous permet d'être encore en vie à la surface de la Terre, car avec le changement climatique, c'est l'océan qui va permettre de réduire la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère, un peu comme les forêts, mais plus que les forêts encore, et surtout va absorber plus de 90% de la chaleur qui est consécutive à nos émissions aux gaz à effet de serre. Donc, si on n'avait pas l'océan, on ne pourrait pas vivre à la surface de la planète. Donc, il faut s'en occuper dès maintenant. Mais la temporalité de l'océan étant telle, c'est-à-dire que pour qu'une goutte d'eau revienne au même endroit, il faut 1000 ans. Bon. Et donc, cette temporalité, elle nous dépasse complètement. Donc, quand on fait quelque chose aujourd'hui, les conséquences vont se faire sentir au bout de 10 siècles. Et c'est pour ça qu'il faut aussi prendre la mesure de la protection de l'océan aujourd'hui. Alors, dans ces conditions, les Nations Unies ont développé, après le climat, après BBNJ, etc., une stratégie qui s'appelle la stratégie des objectifs du développement durable pour 2030. Et dans cette stratégie, il y a 17 objectifs, et le 14e, obtenu avec beaucoup de luttes diplomatiques, c'est la vie dans l'océan. Et compte tenu de l'absence de ce qu'on appelle de COP, comme le climat ou comme la biodiversité, les Nations Unies ont décidé de, tous les 3 ans, de faire un point sur où est-ce qu'on en est de l'action pour cet objectif du développement durable, de la vie dans l'océan, avec plusieurs aspects, la pêche, les subventions, va-t-on les continuer ou pas, des stocks de poissons, le renouvelable de ces espèces, les ressources divers types, comment est-ce qu'on va les exploiter ou pas, la connaissance avec la recherche scientifique, où est-ce qu'on en est. Il faut quand même voir qu'on connaît en gros entre 230 000 et 250 000 espèces dans l'océan. Il y en a plus de 2 millions sur Terre. Donc on peut se poser la question, c'est peut-être parce qu'on n'a pas assez exploré. Mais peut-être que c'est pour une autre raison d'ailleurs. Et puis là, pour revenir justement sur le côté onusien, cette conférence, tous les 3 ans, a eu lieu la première fois à New York, la deuxième fois à Lisbonne, et la troisième fois, c'est la France qui le portera avec le Costa Rica, à Nice en 2025. Je pense que c'est très important de le savoir parce que la France, qui a quand même le deuxième pays maritime, disons, en termes de superficie, des zones économiques exclusives grâce aux Outre-mer, n'avait pas jusqu'à, je dirais, le One Ocean Summit de Brest qui a été lancé il y a quelques années, n'avait pas du tout pris la mesure de son rôle dans, pas seulement militaire, mais dans la protection même du fonctionnement de l'océan, qu'il s'agisse de la circulation thermohaline ou des espèces ou de la biodiversité ou de la pollution. Et là, le fait que dans 2025, nous ayons cette date limite nous amène à essayer de nous organiser, nous scientifiques, mais pas seulement, puisque au moment donc du 8 juin prochain, il y aura une pré-COP au Costa Rica. Et puis ensuite, en Nice, il y aura 3 types de manifestations. 3 jours de forum scientifique du 4 au 7 juin.
2025.
2 jours sur le business océan à Monaco. Ça va très bien à Monaco. Et puis 1 jour sur un des grands thèmes qui est pour, par exemple, les assurances très importantes, c'est le problème des villes côtières et de la bande littorale qui est, avec le changement climatique, soumise à tous les déchaînements des éléments, avec la manière dont l'État doit aussi prendre en charge le déplacement des populations, etc. Donc je vous invite vivement à participer, puisqu'il n'y aura pas que des scientifiques, il y aura aussi la société civile. Et je pense qu'à ce moment-là, on aura un bon état de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on devrait faire, est-ce qu'on peut le faire, avec qui et comment le financer.
Donc vous avez bien compris qu'il faudra aller à Nice en juin 2025. Arnaud Bertrand, je me retourne vers vous avant de laisser la parole. Il y a certainement des questions dans la salle, parce que on a beaucoup évidemment employé le mot écosystème, biodiversité, la vie dans l'océan. Quel futur justement pour ces écosystèmes? Parce qu'il faut dire ce qui fâche aussi, vous avez parlé du plastique. Voilà, quel futur pour ces écosystèmes qu'on connaît à peine, qui sont pas seulement des ressources, mais qui travaillent pour nous, hein, vous l'avez dit.
Oui, alors effectivement, elles se font face à énormément de menaces. Le plastique, on commence à en entendre parler, mais c'est massif. C'est-à-dire que c'est bien plus que ce qu'on peut imaginer. C'est absolument impressionnant. C'est-à-dire qu'on collecte des organismes, que ce soit du plancton, des poissons, des céphalopodes ou autres. Ils sont tous bourré de plastique dans les estomacs. Et en fait, ce plastique, le problème, c'est qu'il advecte d'autres polluants. C'est-à-dire, sur ce plastique, on va retrouver du mercure, on va trouver d'autres métaux lourds. Et en fait, on trouve aussi des bactéries. Et du coup, ils sont très appétants pour les organismes. Parce
qu'en fait, ils ont envie de manger le plastique.
Oui, parce qu'en fait, c'est un substrat de bactéries. Mmh. Et donc, y a aussi de la nourriture, puisqu'il y a des bactéries. Mmh. Et donc, c'est extrêmement appétant. C'est vraiment de la nourriture par ailleurs. Mais c'est aussi énormément de poison. Après, il y a énormément de métaux lourds outre le plastique, notamment à la sortie de fleuves, mercure et autres. Et sinon, il y a tous les impacts du changement climatique avec modification de ce qu'on appelle la circulation thermohaline, mais surtout la stratification des océans. C'est-à-dire qu'avec le changement climatique, l'océan de surface se réchauffe et en fait, il y a une différence de plus en plus forte entre la température de l'océan de surface et l'océan profond. Et en fait, ça fait une barrière qui empêche les mouvements verticaux. Et de ce fait, en fait, les nutriments, ils sont en profondeur. Et les nutriments, ils ont besoin de remonter en surface pour arriver à la lumière, pour qu'il y ait de la photosynthèse. Et si les nutriments restent en dessous parce qu'il y a une barrière qui les empêche de remonter, c'est-à-dire que la turbulence n'est pas suffisante pour casser cette barrière, eh bien, ça va réduire la productivité des océans et donc notamment de nos alliés qui vont descendre ce carbone en profondeur. Donc non seulement on aura moins de carbone stocké en surface parce qu'il y aura moins de nutriments, mais en plus, la faune globale, là, on a récemment publié un article qui montre qu'en prédiction de moins 20% de cette biomasse en organismes qui migrent à la fin du siècle. Donc c'est 20% d'alliés en moins juste par ces changements dans l'océanographie liés au changement climatique. Donc oui, le panorama n'est pas tellement engageant et il faut s'engager.
Il faut s'engager et il faut s'engager, ce que vous faites tous d'ailleurs, en interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'on a besoin de toutes les connaissances pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et là où sont les soucis. Je vais peut-être me retourner vers le public, voir si ça suscite des questions. On peut continuer notre conversation, hein, mais peut-être que vous avez des questions. Et dans ce cas, ça serait le moment. Oui, il y a une main qui se lève. Vous allez avoir un micro, hein. Ça arrive tout de suite. Ici, là, un peu plus devant, mais il y en a peut-être d'autres que j'ai pas vues. Ah oui, là aussi, pardon. Vous aurez droit ensuite.
Oui, je voulais savoir, il n'y a pas des bateaux qui existent pour nettoyer justement la mer concernant tous ces plastiques?
Si, il y en a, mais il faut regarder le coût. C'est presque comme une aiguille dans une botte de foin. C'est-à-dire, vu la façon dont le plastique va se fragmenter, il va devenir micro-particulaire, nano-particulaire. Et vu l'immensité de ce on l'appelait septième continent. Moi, je pense que c'est pas quelque chose qui est très rentable écologiquement.
J'allais prendre l'exemple plutôt de, enfin, qui est la même chose, de vider la mer à la petite cuillère.
Ouais.
Et en fait, je vais donner une anecdote. J'ai une amie qui travaille à Marseille depuis 30 ans pour essayer de limiter les déchets plastiques en mer. Et en fait, depuis 10 ans, elle voit tout l'argent qui est mis dans les microplastiques. Et ça l'agace profondément, parce qu'en fait, elle essaye d'empêcher le plastique d'arriver en mer depuis 30 ans. Elle n'avait pas de financement. Et aujourd'hui, il y a énormément de financement pour étudier l'impact des microplastiques une fois qu'ils y sont. Ouais. Donc, c'est à la source qu'il faut s'attaquer.
Absolument.
Il y avait une autre question, oui.
Je voulais savoir si les connaissances au niveau génome des organismes sous-marins sont privées, donnent lieu à des brevets privés ou sont données dans le domaine public. Parce qu'au niveau du génoscope, il y a eu déjà des luttes pour que le génome humain ne soit pas privatisé comme voulaient certains organismes américains. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était pour les fonds sous-marins.
Oui, c'est une bonne question. En fait, la communauté scientifique dans son ensemble souhaite que les séquences génétiques identifiées soient en données ouvertes, que tout le monde ait accès. Ça, c'est un principe. Et vraiment, toute la communauté scientifique est d'accord. Simplement, il y a des séquences qu'on peut trouver dans la mer, qui peuvent être séquencées par des privés, qui déposent des brevets non pas sur, des gènes fonctionnels, mais des séquences génétiques dont on ne sait pas quel est le rôle et qui ont la possibilité de le déposer dans une banque. Donc c'est semi-privé puisqu'on a identifié qui dépose quelque chose, mais simplement on n'a pas accès à la séquence elle-même. Ça, c'est parce que ça ne vient pas des organismes mêmes. C'est dans la mer. Et pour ça, dans l'avenir, ça va être un combat à renouveler, je pense, sans arrêt. Oui, il y a monsieur là-bas.
Oui, donc ça m'a interpellé quand vous avez parlé des 40% de brevets chez BASF. Et est-ce qu'on va être un peu comme certaines choses qui se sont passées sur l'humain, sur l'hépatite par exemple, où des boîtes seront capables de breveter du vivant.
Alors,
et d'en avoir effectivement l'exploitation.
Non, c'est une bonne question. Je pense que le fait qu'il y ait... ils ont commencé avant... moi, je pense qu'il y a 30 ans, ils ont commencé déjà à avoir des séquences. Il n'y avait pas du tout la facilité qu'il y a actuellement. Ça a été un investissement pour eux financier. Et donc, ils ont déposé vraiment des brevets au moment où il n'y avait pas cette connaissance foisonnante des séquences génétiques actuelles. Donc, il y a ce problème-là. Aujourd'hui, on ne peut pas déposer des séquences fonctionnelles de façon privée. Même si on les a, d'ailleurs, on peut très bien ne pas le dire, hein, on les a, mais on ne peut pas le privatiser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des séquences qui sont déjà connues pour être fonctionnelles et exploitées déjà. Bon, voilà. Donc, c'est un problème.
Question aussi.
J'ajouterais qu'avec, en plus, ce qu'on appelle la génétique de synthèse, on va de plus en plus aussi produire des séquences artificielles qui peuvent avoir aussi des impacts fonctionnels sur le vivant, dont on n'a pas du tout de juridiction pour l'instant.
Oui, je voulais vous poser trois questions, en fait, par rapport à la notion du temps. Parce que ce qui m'a impressionné, monsieur Bertrand, vous disiez que vous, il y a des espèces que vous avez retrouvées qui avaient 40 ans, et en fait, pour évoluer, donc, enfin, qui commençaient à se reproduire à 40 ans, et ils pouvaient vivre très longtemps. Mais comment vous savez si l'espèce a disparu, qu'elle peut aller jusqu'à 100 ans?
Alors, en fait, elles n'ont pas forcément disparu, simplement, elles ont été surexploitées. C'est-à-dire. Un des premiers groupes de travail auxquels j'ai participé dans la fin des années 90, c'était des groupes de travail en acoustique, et il y avait des collègues néo-zélandais qui travaillaient donc sur cette ressource, l'orange roofy. Et en fait, on sait que cette espèce peut vivre 80, 100 ans, se reproduit à 30 ou 40 ans. Et en fait, elle a été tellement vite surexploitée qu'ils ont... En fait, en Nouvelle-Zélande, il y a un système... C'est un pays extrêmement ultralibéral, et en fait, la recherche dépend de l'exploitation. Et en fait, pour pouvoir faire des études sur une espèce donnée, il faut l'exploiter. Sinon, on ne peut pas. Et donc, il y avait des plans pour continuer à exploiter cette espèce, ce qui permettait de continuer à l'étudier. Et c'était mais absolument aberrant, c'est-à-dire qu'il y avait une récupération de quelques pourcents du stock, je me souviens à l'époque, donc on parle de la fin des années 90, pour 2050. Donc elles n'ont pas forcément disparu, simplement leur stock s'est effondré, c'est-à-dire que cette espèce-là, on estime que 98% de la population a disparu en quelques années d'exploitation.
Arnaud, Fabien. Fabien,
J'aurais voulu faire remarquer. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui me frappe toujours à propos de la pêche. Il y a une espèce d'image de la pêche qui est complètement, euphémisée. Et je pense que c'est lié aussi à la publicité qui est faite. Vous savez, rien que le terme petit bateau, ces petites choses-là. Il faut bien voir que la pêche a été identifiée comme un des principaux facteurs de dégradation de l'océan. Ça concerne à la fois les espèces qu'on pêche. Deuxièmement, ça concerne les espèces qu'on attrape alors qu'on ne voulait pas les pêcher, qu'on rejette à la mer, donc les espèces, les prises accessoires, c'est des millions de tonnes par an. C'est tous les poissons qui sont pêchés par ce qu'on appelle les engins fantômes, c'est-à-dire on perd un filet en mer, il est en nylon, j'ai dit tout à l'heure, maintenant, ou dans d'autres matières plastiques, donc il dérive et il continue à pêcher. Donc les poissons viennent dedans, meurent, pourrissent, au bénéfice d'absolument personne. D'autre part, on dégrade les fonds, les chaluts de fonds raclent les fonds, détruisent le corail. Ça, c'est moi j'ai lu avec effroi dans les archives des années 1920 ce que ramenaient les chalutiers à vapeur des années 1920, c'est-à-dire des masses de corail énormes, des corails des mers froides qui ramènent et qu'on n'étudiera jamais, dont on ne connaîtra jamais la cartographie ni l'existence, qui s'étaient développés pendant des siècles et des siècles, pendant des millénaires. Donc, on mesure mal, je pense, l'importance de cette question de la pêche, et parce que ça semble quelque chose d'un peu compliqué, technique, euphémisé, et on parlait des subventions tout à l'heure, un grand enjeu de tout ça, c'est quand même les subventions publiques. C'est-à-dire que la pêche, toute une partie de la pêche, alors française, européenne, mondiale, ne vit que de subventions, ne vit que parce qu'on subventionne l'exploitation. Donc ça pose de vraies questions qui ressemblent d'ailleurs assez au développement du modèle agro, disons, agricole post-45, de consumériste, massivement...
productiviste.
Productiviste et massivement, malgré tout, subventionné. Donc il y a une vraie question politique que les professionnels de la pêche ne veulent pas, dont les professionnels de la pêche préfèrent qu'on ne débatte pas démocratiquement. Mais malgré tout, je pense que c'est un vrai enjeu démocratique. Il ne faut pas laisser ça aux techniciens de la pêche.
Oui. Donc en fait, il faudrait élire un président qui soit un scientifique pour le protéger.
C'est un autre débat encore plus abyssal.
Une dernière question sur la chimiosynthèse, vous disiez au niveau des dorsales, par rapport à la biologie, la biosynthèse, est-ce qu'il y a des choses au niveau de recherche qui pourraient servir pour étudier la biologie humaine?
Ah oui, alors là vraiment c'est extraordinaire. Bon, un exemple que je vis. Donc, en fait, j'ai eu une thésarde et on avait déposé un brevet il y a à peu près 20 ans sur les animaux les plus thermophiles qui vivent dans les cheminées hydrothermales, c'est-à-dire entre 40 et 80 degrés, et qui sont susceptibles aussi de résister à 100 degrés, avec des fluctuations sans arrêt de température. Ces animaux sont velus, et sur leur dos, il y a tout un écosystème bactérien qui se développe. Et ils vivent dans un tube qui est donc fixé sur la paroi des cheminées. Et puis, on voyait bien que suivant la taille de l'animal, les bactéries changeaient de forme, de couleur, etc. Donc il y avait une diversité. Donc, on a commencé à étudier ces bactéries et à regarder qu'est-ce qu'elles sécrétaient. Donc la thèse a été sur l'identification de peptides éventuels, ce qu'on appelait à ce moment-là d'antipeptides, qui sont des antibiotiques. Et on a identifié un antibiotique très particulier qui permettait à l'animal de n'être colonisé que par un type de bactérie bien précis. Et cet antibiotique empêchait n'importe quelle autre bactérie, il y en avait des milliards, hein, de venir se coloniser cette bestiole, l'Alvinella pompeiana, le ver de Pompéi. Et donc, on a déposé ce brevet. Et puis, cette thésarde est devenue prof à l'Université de Lille. Elle est devenue, maintenant, elle est à l'Institut Pasteur. Et ce brevet est en train d'être utilisé, disons, je ne peux pas en parler beaucoup, mais les propriétés de cet antipeptide, mais pour moi, c'est hallucinant. C'est vraiment génial. Quelque chose qui peut permettre de pallier à toute attaque bronchique par n'importe quel autre virus, bactérie, etc. Donc voilà quelque chose qui est en train d'être fait. Alors, évidemment, après, il y a le temps pour l'industrie du test, voire etc. Mais je pense, là, c'est juste un petit détail, mais tous les processus moléculaires, cellulaires, d'adaptation de ces bestioles, mais c'est vraiment extraordinaire ce que ça pourrait donner comme nouveaux résultats dans les domaines de la santé. Mais pas seulement dans les domaines de la santé. Ça peut être des polymères, par exemple, qui sont résistants pour tout l'agroalimentaire. Ça peut être aussi des structures qui peuvent servir à des matériaux particuliers. Il y a vraiment un univers de créativité à l'œuvre, là, qui pourrait être... qui vont donner lieu, ça, j'en suis sûre, à des découvertes.
Et est-ce que vous connaissez le magazine Espèces ? Il y a des articles qui paraissent aussi de ce que vous faites.
Oui. Je connais le magazine Espèces, mais c'est vrai qu'on n'a pas...
Oui, parce que vous parlez de vulgariser, mais c'est vrai que c'est des choses dans des magazines vraiment spécialisés.
Oui, mais là, je ne peux pas en parler trop, justement, tant que c'est pas...
Il faut attendre.
Il faut 10 ans hein, entre le moment où on découvre et le moment où on peut en parler.
Mais c'est très, très intéressant.
Oui. Ah non, c'est génial, c'est vraiment génial. Et moi, j'ai d'autres idées, par exemple. Il y a des espèces différentes dans le Pacifique et dans l'Atlantique. Dans le Pacifique, c'est vraiment des zones très, très chaudes. C'est un océan jeune dont les plaques se déplacent entre 11 et 16 centimètres par an. Vous voyez, c'est... À côté des Galapagos, il y a 16 cm par an d'espace de plaque qui est formé. Dans l'océan Atlantique, c'est un plus vieil océan. Et donc, il n'y a plus que 2 cm par an. Et les espèces ne sont pas les mêmes. Et donc là, c'est des vers qui sont dans le Pacifique. Et dans l'Atlantique, c'est des crevettes, par exemple. Et ces crevettes, alors, elles ont trouvé une autre stratégie. C'est-à-dire, elles utilisent les bactéries, mais elles les mettent dans dans l'équivalent de leur bouche, dans leur thorax. Elles les cultivent aussi. Et simplement, il semble que l'énergie qu'elles utilisent vienne de l'oxydation du fer. C'est quelque chose de très simple, hein, très très simple. Mais à partir de cette oxydation du fer, ça génère un certain type d'énergie qui peut permettre à un écosystème aussi bactérien de se développer et de donner une nourriture qui n'est pas habituelle dans ces profondeurs. Donc c'est vraiment des choses qui sont... Enfin, il y a un milliard de choses à trouver là-dessus.
Ouais, c'est clair.
Est-ce que ça suscite... Merci. D'autres questions ? Oui, devant aussi. Un univers.
Moi, j'ai une curiosité par rapport aux explorations individuelles qui parfois suscitent la passion médiatique. On a en tête un cinéaste américain qui, je crois, il y a plusieurs années, est descendu très profond dans la fosse des Mariannes. Et puis l'année dernière, la catastrophe de cette exploration autour du Titanic. Oui. Est-ce que ces tentatives sont adossées à un projet scientifique sérieux? Et quel est le regard de la communauté scientifique sur ce type d'exploration?
Cameron, oui, moi, pour moi, c'est du sérieux, parce que d'abord, il a suivi les campagnes scientifiques, moi je le connais. Donc c'est quelqu'un de... Il a une passion de l'image et son projet a été à la hauteur de ce qu'il voulait faire. C'est vraiment de sérieux. Ce qui est arrivé l'année dernière, je connaissais bien la personne qui est décédée, puisque j'avais commencé à plonger avec cette personne-là. Pour moi, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux parce que quand on est professionnel, on fait très attention au type de sous-marin qu'on prend. Et il y a des choses qui sont évidentes. À une certaine pression, mettons à partir de 2000 mètres jusqu'à 5000 mètres, si vous avez un hublot qui fait plus de 20 cm, ou plus de 10 cm, le sous-marin va exploser. Enfin, je veux dire, c'est la moindre des choses. Donc là, le problème, c'est la non-homologation. Ce sous-marin n'était pas homologué par les Américains. Mais parce qu'il ne répondait absolument pas aux normes. Mais quand c'est le privé, c'est le privé. Et on ne peut pas empêcher les gens de plonger comme ils veulent. Mais par contre, vous n'aurez jamais ça avec les professionnels. Jamais. Vraiment, il y a tout. Enfin, c'est des vrais marins. Vous savez, un marin, il sait qu'il peut avoir sa vie en danger quand il va en mer. Donc, tous les ingénieurs, tous les gens qui sont sur un bateau, ils savent que la mer est dangereuse. Et alors, quand on plonge, c'est encore pire. Donc, moi, ça m'a énervé ce truc, mais vraiment, pas possible.
Et que pensez-vous aussi de l'exploration robotique? Parce qu'on en parle aussi beaucoup.
Ah bah oui,
Il y a toute cette exploration, cette partie-là aussi.
Oui. Alors bon, je dois dire que qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est extraordinaire. Vraiment, le développement de tous les robots, les planeurs, là vraiment, tout ce qui est militaire, ça va multiplier, disons, le nombre d'habitants inanimés dans l'océan. Je pense que c'est formidable parce que ça permet d'avoir des résultats scientifiques qu'on n'aurait pas sinon, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut en moyenne entre 3 et 5 ans pour avoir une campagne et avoir un navire.
Et qu'on ne peut pas toujours aller dans telle profondeur.
Voilà,
enfin, voilà.
Exactement. Bon. Par contre, ce qu'on voit là en ce moment, c'est que quand les étudiants faisaient de l'océano, ne serait-ce qu'il y a 20 ans, ils allaient en mer parce qu'il fallait qu'ils aient des données qu'ils obtenaient en mer. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller en mer. On est dans le labo, mais il y a des milliards de données qui arrivent avec ça, avec ces robots. Donc finalement, c'est des données comme d'autres. Avec lesquels on peut jouer et qu'on peut traduire, qu'on peut modéliser, etc. Et ce que je regrette, pour l'instant, je pense que ça va revenir, mais c'est cette absence de connaissance de la mer. Je pense que... Enfin, c'est vrai que je suis une naturaliste initialement, donc ce rapport à l'océan, il faut le vivre pour aussi pouvoir avoir cette connaissance du vivant qui est en mer. Enfin, puisque c'est le vivant qui m'intéresse en mer. Et je pense que là, on est en train d'artificialiser un peu la vision qu'on a de l'océan avec ça.
Arnaud Bertrand, vous avez quelque chose à dire là-dessus?
Oui, alors ça me fait penser qu'on parlait d'océanographe à pied sec et d'océanographe en bottes. C'est-à-dire que, oui, aller en mer, c'est quand même quelque chose qui me semble fondamental pour vraiment prendre conscience des choses. Et oui, il y a de plus en plus d'instruments robotisés. Alors, on peut avoir des wave gliders, enfin des instruments qui vont utiliser l'énergie des vagues pour avancer, faire des transects, faire des observations. Et c'est vraiment primordial. C'est-à-dire que le coût est tel des bateaux qu'on a besoin de ça. Ouais. Cependant, c'est vrai qu'aller en mer, moi je conseille à tous les étudiants d'embarquer, même a fortiori, des personnes qui font des modèles. Parce qu'on finit par créer des modèles et perdre un certain sens si on n'embarque pas, si on ne va pas voir sur place. Donc les robots, bien sûr, c'est un allié, mais embarquer me semble essentiel.
Oui.
Ah oui, c'est un peu lié, mais propre à Interpel, mais je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais est-ce que vous avez vu, comme dans la littérature et tout ça, il y a tellement des animaux marins imaginables, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Alors, je voudrais savoir si vous avez vu aucun rapport entre les animaux imaginaire et les nouveaux animaux qu'on, nous sommes en train de découvrir.
Ah, jolie question. Je ne sais pas qui veut s'y coller.
Moi, je veux bien en parler. C'est-à-dire, c'est vrai que quand on plonge et qu'on voit des animaux qu'on n'a jamais vus et qu'on n'a même jamais imaginés, parce que même dans la littérature, ils n'en parlaient pas. Quand j'ai vu les Riftia, Pachyptila, qui sont des trucs qui sont plus grands que moi, bizarres, c'est des vestimentifères au fond des mers. Enfin, à côté des sourcils de thermal, avec un rouge vif, alors que j'avais toujours vu dans l'abyssal que des animaux blancs, dépigmentés, rouge vif, qui n'arrêtait pas de bouger dans un tube blanc immaculé. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, hein, vraiment. Et alors, quand vous avez le hublot, donc quand vous regardez, puisque vous regardez à travers un hublot, la bestiole vous paraît immense à travers le hublot, parce que l'épaisseur du hublot est telle que ça grandit la chose. Voilà. Donc ça c'est vrai que c'est quand même un choc quand on voit ça. Et puis donc ça existe. Et puis l'autre truc qui m'a le plus frappé, c'est ce qu'on appelle les jumbo. C'est une sorte de pieuvre, mais minuscule et qui est rose, qui est extrêmement élégante. Très vaporeuse et qui finalement quand on la regarde paraît immense mais qui est toute petite mais qui avec cette histoire de hublot paraît beaucoup plus grande qu'elle n'est. Par contre, le nombre de gens qui m'ont posé des questions sur cette pieuvre justement ou ce grand machin qu'on connaît pas, on n'a jamais vu ça à part les baleines qui me paraissent très grandes.
Oui. Et ces vers géants des profondeurs, ces animaux.
Oui, bah oui, non, mais 2 mètres, quoi.
Les calmars géants, non? Il y a cette. Ça, ils existent.
Oh oui, mais bon.
Ça, c'est un peu la mythologie.
C'est 6 à 7 mètres, mais c'est pas quand même. C'est pas.
C'est pas mal quand même, 6 à 7 mètres.
Ah oh, oui.
Arnaud
enfin, moi, je m'attendais à 20-30 mètres.
oui, non, c'est... Enfin, quelque part, le monde imaginaire est en deçà de ce qu'on peut voir, ce qu'on peut observer. C'est-à-dire, à la fois dans une goutte d'eau, je sais pas, des foraminifères, ça a des formes incroyables.
Des foraminifères. Oui. C'est comment?
Alors,
des acariens
ou... c'est presque des petites nautiles, disons.
Ouais. Ça fait comme des...
Ça peut, c'est une coque.
Oui, c'est ça. Ça peut être des soucoupes volantes, tout ce que vous voulez, et après des organismes plus grands. Et en fait, c'est bien au-delà de ce qu'on peut avoir vu dans tous les films fantastiques.
Ouf. Est-ce qu'on va arriver... On a encore 5 minutes, on aura un tout petit peu de temps, donc on peut encore prendre... des questions, si le téléphone s'arrête.
Donc moi, je voulais bien parler d'un projet qui va être présenté aux Nations Unies donc, en 2025, et qu'on appelle l'IPOS, ça veut dire International Panel for Ocean Sustainability. L'idée qui a présidé à ce projet, c'est en fait, voilà, maintenant, tout le monde accepte le fait que le changement climatique est une évidence, et le GIEC, donc les scientifiques du GIEC, ont joué un rôle déterminant dans cette prise de conscience. Il a fallu 30 ans pour qu'on y arrive, mais On y est arrivé. C'est pas pour autant qu'on ne fait, on fait les choses qu'il faudrait faire, non pas encore, mais en tout cas, on sait qu'il faudrait faire quelque chose. Pour l'IPBES, il y a pour la biodiversité, il y a 7 entités, mais il n'y a rien pour l'océan d'équivalent. Et donc, cette idée d'IPOS a été présentée de cette façon-là, surtout aussi parce qu'en fait, on est un certain nombre à penser que le plus grand problème qu'il va y avoir dans l'avenir, ça va être l'usage de l'océan. L'usage de l'océan en termes de présence, en termes d'artificialisation, en termes d'impact, qu'il s'agisse de la pollution, après le changement climatique, mais aussi l'artificialisation, ce qu'on appelle, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qui reste de naturel ? L'océan est le dernier espace naturel sur Terre, mais qu'est-ce qui reste de naturel ? Et si on ne fait pas attention dès maintenant, compte tenu de sa durée de vie, dont j'ai parlé, de sa latence, etc., il faut maintenant qu'on essaye de modéliser comment cet océan va-t-il se comporter demain pour savoir, nous, quelles seront les conséquences aussi sur l'espèce humaine. Et comment l'espèce humaine pourrait-elle réguler l'usage de l'océan. BBNJ a été justement un des négociations qui sont importantes. Et là, donc, en fait, on est en train, au niveau international, d'essayer de concevoir quelque chose qui soit un peu comme le GIEC, mais beaucoup mieux encore, si c'est possible, c'est-à-dire moins... ce qu'on voudrait, c'est que la connaissance que cet exercice permet soit diffusable, actionnable, partageable et compréhensible par tout le monde, et qu'on soit aussi en mesure d'avoir une évaluation des actions qu'on fait liées à la connaissance qu'on aurait grâce à ce travail des scientifiques.
On peut que soutenir un projet pareil. Je sais qu'il y avait une question, il faudrait qu'elle soit courte. Oui. Ah. Allez-y avec la voix, mais on est vraiment, c'est très court.
Oui. Au septième continent, est-ce qu'au niveau international, il y a des actions qui ont été...
Oui. Oui, oui. Là, en ce moment, en ce moment, c'est le PNUE, c'est-à-dire l'UNEP, enfin, la structure environnement des Nations Unies qui est en train de réaliser la confection d'une convention plastique. Et ça, c'est beaucoup de travail. Il faut 10 ans pour qu'on y arrive. Mais on va y arriver.
On va y arriver, ça c'est sûr. Merci en tout cas à tous pour votre présence. Merci à nos 3 intervenants, Françoise Gaëlle, Arnaud Bertrand et Fabien Locher. Je vous renvoie évidemment, alors cher public ici présent et chers internautes, sur les ouvrages de nos invités, mais aussi sur la super bibliographie et filmographie préparée par Yveline dans les équipes techniques de la BNF. Vous pourrez d'ailleurs consulter les ouvrages cités ici. Il y a une présentation de ces ouvrages en salle C, disponible jusqu'au 26 février. Et la bibliofilmographie sur les abysses et les océans est disponible, bien sûr, sur le site de la BNF. Un grand merci pour toutes vos questions pertinentes. Merci pour nous avoir fait passer un peu de la beauté de la... L'océan est précieux et la vie qu'on ne connaît à peine dedans est précieuse. Merci à vous tous. Rendez-vous, si vous voulez bien, ici même, à la BNF le 7 mars prochain pour nous interroger sur l'exploration des pôles, cette fois jusqu'où et comment, surprise, émerveillement, certainement au programme de cette prochaine exploration. Et je vous renvoie aussi sur RFI, Radio France Internationale, et l'émission autour de la question du lundi au mercredi à 15h10 sur de Paris ou en podcast. À volonté, bonne soirée à toutes et tous et merci à la BNF, au service Sciences et Techniques et à l'équipe technique.
Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.